France Inter, le 6-9.
Le débat éco avec Anne-Laure Delatte et Dominique Seux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Débat éco cette semaine. Anne-Laure Delatte, vous êtes chercheuse au CNRS, professeure associée à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Bienvenue à vous et merci de participer au débat. Et face à vous, Dominique Seux, cette semaine, deux événements économiques ont fait ressurgir la question cruciale de la souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté économique. Dans le domaine des médicaments d'abord, il y a le leader français des génériques, Biogarant, qui est à vendre. Il se murmure que deux industriels sont sur les rangs. On a également appris qu'un des derniers industriels des panneaux photovoltaïques, Systovi, a fermé son usine. Et pendant ce temps, à Bruxelles, les dirigeants européens se sont réunis pour parler compétitivité. D'abord, est-ce que les deux exemples que je viens de citer vous inquiètent, Anne-Laure Delatte ?
Alors oui, c'est inquiétant. Sur Biogarant, par exemple, vous avez dit que c'est le champion des génériques en France, et c'est vrai que c'est très inquiétant de penser qu'on peut délocaliser cette production, parce que on peut se retrouver face à des pénuries, et c'est là un enjeu de souveraineté. Donc il va falloir clarifier d'abord si c'est racheté. Alors, est-ce que ce sera délocalisé ? Et si c'est délocalisé, alors est-ce qu'il y a un risque de pénurie ? La direction de Biogarant nous dit que elle vend parce que les médicaments ne sont pas assez chers en France et qu'il y a trop de charges fiscales. Ça, c'est l'argument de Biogarant. Après, il y a un élément qui est intéressant, c'est que Biogarant, en fait, c'est une société du groupe Servier. Servier qui est rattaché au scandale Mediator et qui a une énorme sanction. Qui vient d'être condamné en fait en décembre et donc qui est à la recherche de liquidité parce qu'il faut qu'il sorte 450 millions d'euros. Et donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce que Servier est en train de rechercher de la liquidité en vendant une de ses sociétés ? Finalement, est-ce que c'est vraiment un enjeu de souveraineté ? Est-ce qu'il faut mobiliser de l'argent public pour ça ?
Bonne question, Biogarant est à vendre. Deux industriels sont sur les rangs, Dominique, on sait qui c'est ?
Alors, en fait, il y a deux industriels indiens qui sont sur les rangs. Il y a au total quatre industriels qui seraient sur les rangs. Deux Européens, des fonds d'investissement, et deux Indiens. Et la question, c'est de savoir si l'État, parce que l'État va avoir un rôle, et d'ailleurs l'État a donné une indication hier, ce qui est intéressant dans ce sujet, donc Biogarant, c'est 350 millions de médicaments vendus par an, hein, donc c'est considérable, c'est le leader du générique, hein, donc c'est important, et il fabrique en sous-traitant, mais il fabrique en France.
Et pas impossible de ne pas penser au Covid et à la période où on manquait de médicaments parce qu'ils étaient produits à l'extérieur.
Et donc le point intéressant lié au sujet souveraineté, c'est est-ce que il y a moyen de est-ce que les pouvoirs publics peuvent avoir un moyen de regarder ce dossier ? Et la réponse est oui, elle a été apportée d'ailleurs par le ministre de l'Industrie Roland Lescure hier. Il y a une procédure, ça permet de la redécouvrir à ce moment-là. Il y a une procédure qui s'appelle investissement étranger en France, IEF, passons pour les auditeurs que ça n'intéresse pas beaucoup dans le détail technique, c'est est-ce que l'État peut dire, attendez, il s'agit de la santé, donc on pose des conditions. Et la réponse est oui. Donc l'État a déjà indiqué hier qu'il posera des conditions. Donc à mon avis, soit les Indiens, si ce sont les Indiens qui rachètent, ils devront prendre des engagements signés pour maintenir la fabrication en France, soit, à mon avis, le plus probablement, ce sera des investisseurs européens qui rachètent. Donc on voit bien que, à travers cet exemple, et on va évidemment parler des panneaux solaires aussi, on voit bien que la doctrine française et européenne, mais française en l'occurrence, est en train de totalement changer. Les pouvoirs publics peuvent dire non, et ils ont déjà dit non à un exemple. Ils ont bloqué le rachat de Photonis il y a maintenant quelques années, qui devait être acheté par un Américain. C'est des appareils d'optique militaire. Vous avez des jumelles, des choses très techniques. L'État français a dit non, et ça a été racheté par un Européen. Et depuis, ça se développe considérablement. Ça a même changé de nom.
Anne-Laure Delatte, vous acquiesciez. Alors, on va passer donc à la question des panneaux photovoltaïques. Systovi, là, en l'occurrence, l'usine a fermé. Est-ce que c'est un cas, là aussi, qui vous inquiète, considérant que la France n'est pas un très grand producteur de panneaux solaires ?
En fait, dans l'ensemble, ce que vient de nous dire Dominique, c'est que on met tous de plus en plus de protectionnisme. En fait, on met tous de plus en plus de protection contre la concurrence étrangère, justifié par des enjeux de souveraineté, de dépendance, de risque, de sécurité. En fait, mais cette procédure dont vous parliez, Dominique, de contrôle des investissements étrangers, elle est c'est hyper important et on va probablement la mettre en en place. Mais en fait, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'aides d'État qui sont mises au profit de ces entreprises dans des montants qu'on n'a jamais vus. En fait, il y a énormément d'argent public en ce moment qui est mis, justifié par ces enjeux de sécurité. Par exemple, on vient en subvention publique, on vient de verser 2,9 milliards en France à deux sociétés, dont une ST Micro.
Oui, mais qu'est-ce qui relève de la souveraineté et de la sécurité? J'aimerais bien vous entendre.
Est-ce que je peux finir?
Bien
juste
sûr.
2,9 milliards au moment où on est dans le rouge budgétaire. Ou, par exemple, pour sauver l'école en Seine-Saint-Denis, il faudrait 350 millions. Donc, c'est important. Probablement, la sécurité, c'est très important qu'on se protège. Mmh. Par contre, il faut être sûr que cet argent public, il est utilisé de façon juste et efficace.
Dominique Seux, sur la question de la délimitation de ce périmètre qui relève de la souveraineté ou de la sécurité.
Non, mais l'exemple des panneaux solaires est très intéressant, parce qu'on peut avoir deux thèses différentes. La première thèse, et ça vaut exactement pour les voitures électriques chinoises, pour les panneaux solaires, pour les pompes à chaleur qui viennent de Chine.
Oui.
Si on veut accélérer la décarbonation pour le climat, on a intérêt à importer très vite des panneaux solaires de Chine, parce qu'ils sont moins chers, et donc tous les gens qui veulent se décarboner doivent les acheter très vite. Et donc c'est moins cher, donc c'est plus facile. Donc du point de vue purement climatique, il vaut mieux laisser les Chinois arriver, et ça a été la politique européenne pendant 20 ans. Au fond, ça n'est pas de la haute valeur ajoutée, on leur fait faire. Et évidemment, il y a revers à ça. Donc, si on bascule de l'autre côté, c'est l'enjeu industriel, c'est l'enjeu de l'emploi, c'est l'enjeu de la dépendance, des pénuries. Mais on voit bien que la conception française et européenne a complètement changé ces derniers mois. Mais même au ministère de la Transition énergétique, en France, ils disent « Attendez, les voitures chinoises, c'est bien, ça va baisser nos émissions, ça va nous permettre de respecter nos engagements. »
Mais quand on arrête les subventions, les ventes de voitures électriques s'effondrent.
Alors, le mot effondré peut-être un petit peu, il y a un petit peu
un recul de 11,5%
en Europe, mais c'est pas le cas en France.
On peut parler de chute.
C'est le cas en Europe, mais c'est pas le cas en France. En France, le marché des voitures électriques a ralenti, mais il ne s'est pas effondré du tout. Donc il y a un débat qui est intéressant. Ce qu'il faut voir, puisque vous parliez de Systovi, qui est un des derniers fabricants de panneaux solaires en France, qui a effectivement été mis en liquidation judiciaire mercredi. Pourquoi ? C'est parce que, comme les États-Unis ont interdit l'importation de panneaux solaires chinois, et bien les Chinois ont des stocks mais considérables, qui stockent à Amsterdam, et évidemment, ils ont baissé les prix par 4 en 6 mois. Donc évidemment, personne ne peut résister.
Anne-Laure Delatte.
En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez eu effectivement un changement de doctrine, mais qui se passe à peu près au moment de Donald Trump, dans les années 2010-2016, avec une montée des droits de douane, et donc beaucoup de protectionnisme. Et on a 3 gros acteurs dans le monde, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne.
Oui.
Or, l'Union européenne, si vous regardez les aides d'État, tout ce qu'on fait en faveur de la compétitivité, on en fait autant que les Américains. Le problème, c'est qu'on le fait de façon non coordonnée. En fait, les Chinois agissent en bloc, les États-Unis agissent en bloc, mais nous, on n'agit pas du tout en bloc. En fait, les Allemands et les Français sont ceux qui mettent le plus d'aides d'État, et encore une fois, des subventions publiques, il faut faire attention à quoi ça sert, mais on se fait concurrence. En fait, il y a plein de secteurs qui sont liés à la sécurité, sur lesquels on pourrait se dire, d'accord, on met tout le paquet en Allemagne, et où on met tout le paquet en France ou ailleurs, mais à l'intérieur de l'Union européenne, mais on ne le fait pas.
Mais quand on parle de souveraineté, est-ce que c'est à l'échelle d'un pays,
des
27 ?
C'est vraiment à l'échelle des 27, et le message ici, c'est qu'on a un problème de composition, pas de taille. En fait, l'Europe est excédentaire. Hein. On n'a pas de problème de commerce international en Europe. Le problème, c'est entre nous. Il faudrait revoir la composition de la production européenne.
Dominique Seux.
Le monde est. C'est quoi le monde aujourd'hui avec les 3 blocs dont vient de parler Anne-Laure Delatte? C'est plus de frontières, plus de subventions. Donc c'est le grand changement. S'il faut résumer en 3 mots l'économie aujourd'hui, c'est ça. Plus de frontières, plus de subventions.
Oui, sauf qu'on a autant de commerce international. On a plus de commerce international qu'en 2015. Donc en fait, ça n'a pas vraiment changé cette dynamique.
Les Chinois et les Américains ont changé d'état d'esprit. Est-ce que les Européens changent d'état d'esprit? Les Européens, c'est la libre circulation entre nous. Et c'est ouvert, non pas à tout vent, mais priorité aux consommateurs. Mais en fait, à un moment, la priorité des consommateurs, elle finit par détruire des emplois. Donc on doit changer d'état d'esprit. L'exemple, flagrant sur les insuffisances du marché unique, c'est les télécoms. Aux États-Unis et en Chine, vous avez les nombres d'opérateurs télécoms se comptent sur les doigts d'une main. Donc ils sont très puissants. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En Europe, un opérateur télécom, c'est pour 5 millions de personnes. En Chine, c'est pour 400 millions. Donc, évidemment, on n'a pas du tout la même façon.
On est forcément perdant.
On privilégie le consommateur en fait, au détriment du producteur.
On profite assez peu du marché que représente l'Union européenne. En effet, il vaut mieux se coordonner. Mais maintenant, il y a un paradoxe qu'il faut absolument souligner, c'est que si on veut réindustrialiser, si on veut rapatrier la production en Europe, alors ça va coûter plus cher aux consommateurs. En fait, voilà. Le commerce international, il a réduit les prix et donc on a payé moins cher plein de choses. Ça peut assez mal se passer parce que si vous avez un problème de prix, alors vous avez un problème de pouvoir d'achat et il peut avoir un problème de soutien populaire à ça. Donc il faut absolument attacher un message probablement lié à l'écologie pour qu'il y ait une acceptabilité de cette réindustrialisation.
Encore une question, oui, Dominique.
Je suis d'accord. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que 30 ans de baisse des prix grâce aux prix chinois, aux importations chinoises, est-ce qu'on doit accepter tous en tant que consommateurs? Mais on a vu tous les débats sur l'inflation 24 heures sur 24 pendant 2 ans, donc je ne suis pas sûr que le consommateur est prêt à ça.
On découvre en lisant le Financial Times que LVMH, pour la première fois, participe davantage aux exportations françaises que tout le secteur agricole français. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne-Laure Delatte? Alors, ça participe de la souveraineté, de la puissance française?
Non, alors c'est vraiment une caractéristique française.
Il reste très peu de temps.
Ouais, c'est hyper intéressant, c'est une caractéristique française. En fait, on est des champions grâce aux multinationales françaises. Et ça, c'est pas du tout le cas en Allemagne, pas le cas en Italie. Nous, on a quelques énormes multinationales. Le problème, c'est qu'en fait, elles ont énormément délocalisé. Et le déficit commercial français, il est lié aux délocalisations des multinationales françaises. Donc on peut être très fiers de nous, mais si on veut réindustrialiser, et pas à tout prix, parce que l'emploi industriel, c'est pas le Graal non plus. Il faut réfléchir à l'action des multinationales et à savoir comment est-ce qu'elles peuvent rapatrier ici.
Le mot de la fin, Dominique.
Oui, j'ai un désaccord factuel parce que le groupe, le luxe d'une manière générale, et LVMH en particulier, c'est plutôt des emplois locaux avec des façonniers, des marques, presque de l'artisanat. Pas seulement, et donc ça se passe énormément en Europe et en France. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce que sont les multinationales dans ces cas.
Ce sera le thème d'un prochain débat. En tout cas, la question est passionnante. Merci Dominique Seux, merci Anne-Laure Delatte. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Dauphine PSL et auteur de « L'état droit dans le mur, rebâtir l'action publique » qui est paru chez Fayard l'an dernier. Merci à vous de nous écouter sur France Inter. Il est 8h.